deuxième partie de La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et vous restez avec nous, Benoît Bouscarel, c'est parti. Deuxième partie de La Grande Table jusqu'à 13h30. La controverse est-elle un moteur de la pensée économique? Dans la deuxième partie de cette Grande Table, nous recevons ce midi l'économiste Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, directeur de la revue Sociétale. Auteur de l'état de connivence en 2014, du gâchis français, histoire de 40 ans de mensonges économiques. L'an passé, on le disait plutôt libéral, avec Valls, Macron, le socialisme de l'excellence à la française aux éditions Brochet. En début d'année, il se montre favorable à un retour au socialisme libéral du début du 19e. Dans trois controverses sur la pensée économique, travail, dette, capital, chez Odile Jacob, sorti le mois dernier, il revient sur trois querelles historiques structurantes de la pensée économique actuelle. Un essai pédagogique qui tend à expliquer comment les concepts se sont forgés et les enjeux économiques liés au progrès technique. Une nouvelle prise de position aussi dans le débat du moment entre économistes orthodoxes et hétérodoxes, relancée en cette rentrée par le livre de Pierre Cahuc et André Silberberg, Le négationnisme économique, dont Pierre Cahuc était venu nous parler en primeur sur cette antenne. Et on va commencer par là, justement, avec vous. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, relancé, car ce débat aussi n'est pas nouveau, finalement, non ? C'est un vieux débat, celui qui sépare les hétérodoxes des orthodoxes.
Oui, c'est un débat ancien. C'est un débat qui est d'ailleurs consubstantiel à la pensée économique et à l'émergence de la théorie économique. Ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé dans les années, depuis le XVIIIe siècle, dans les années où a émergé la pensée économique, c'est qu'en général, il y a une pensée qui vient du pays dominant et qui au XVIIIe siècle était la France, qui pendant très longtemps a été le Royaume-Uni et qui désormais sont les États-Unis. Et en face de cette pensée dominante, de cette pensée issue du pays dominant, il y a une pensée contestataire. Et cette pensée contestataire qui se définit en orthodoxe et hétérodoxe depuis Sismondi, qui est un économiste du début du XIXe siècle.
Genevois, Suisse.
Genevois. La démarche des hétérodoxes a toujours été de dire, en fait, nous allons générer une pensée pour stimuler la pensée orthodoxe. C'est-à-dire que la controverse a du sens, la controverse est utile, la controverse permet d'avancer si elle est de bonne foi. C'est-à-dire que le rôle des hétérodoxes, c'est de dire aux orthodoxes, êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Est-ce que vous mesurez les conséquences de ce que vous dites? Si la controverse est de mauvaise foi, si c'est un affrontement lysenkiste, comme le disent les auteurs du négationnisme en économie, c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont sur des positions arrêtées, sur des bases idéologiques, à partir d'objectifs politiques, effectivement, assez vite, ça devient stérile. Et je pense qu'en France, comme on n'est pas la puissance dominante, on a intérêt à être stimulant sur le plan intellectuel, on a intérêt à avoir des économistes qui soient connus, reconnus aux États-Unis, et on a intérêt à ce que ces économistes soient imaginatifs, mais on aurait tort de se réfugier dans une espèce d'hostilité systématique et de nostalgie de politiques qui n'ont pas forcément fait leur preuve.
Pousser au doute, hein, c'est effectivement ce que vous écrivez en citant Sismondi, hein, en vous appuyant sur ces clivages, ces deux courants qu'il avait pu déterminer. La question soulevée par notamment les économistes atterrés aujourd'hui, en réaction au livre de Pierre Cahuc et André Silberberg, c'est qui est là ou qui sont-ils pour définir ce qui est de bonne foi et ce qui est de mauvaise foi? Où est l'idéologie et où sont les recherches qui sont quand même fondées et qui permettent peut-être de porter la contradiction à une certaine scientificité des données recueillies?
Oui, je pense qu'il y a une scientificité dans la méthode. Encore une fois, la bonne foi, l'esprit de curiosité, la volonté d'aboutir et d'avancer, de faire avancer. Et puis ensuite, le juge de paix ultime, je le dis à la fin du livre en parlant de la reine d'Angleterre, c'est quels sont vos résultats? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous avez été capable d'identifier l'origine des maux que nous traversons? Et qu'est-ce que vous proposez comme solution? Ce que je dis d'ailleurs à propos de la polémique qui avait été lancée par la reine d'Angleterre, qui n'est pas une polémique, hein, elle a fait ça de façon extrêmement feutré, extrêmement pondéré, comme toujours dans ses propos. La réponse des économistes britanniques a été de dire, à propos de la crise de 2009, nous sommes beaucoup à nous être trompés, effectivement. Il y avait un problème de déséquilibre de la répartition de l'épargne au travers des déséquilibres de balance des paiements courants, mais c'est vrai qu'on n'a pas été très bons.
Il parle d'une faute d'imagination collective.
Voilà, et donc il parle d'une faute d'imagination collective. Et donc je pense que la vraie réponse à la reine d'Angleterre, maintenant, c'est de se remettre au travail de façon ouverte, de façon concertée, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de travaux de recherche, et à chaque fois d'essayer de faire en sorte que ça débouche sur des mesures concrètes.
Oui, effectivement, c'est la reine d'Angleterre, hein, qui se rend en 2008 déjà à la London School of Economics et qui, comme ça, au déboté, interroge les économistes présents en leur demandant pourquoi personne n'a vu venir la crise de 2008.
Oui.
Et c'est vrai que c'est quand même la question presque essentielle aujourd'hui encore. Si l'économie est une science, comment se fait-il que si peu d'économistes aient venu voir cette crise de 2008? Qu'est-ce que vous, Jean-Marc Daniel, vous auriez répondu à Elisabeth II si elle vous avait sollicité?
Alors, j'aurais répondu trois choses. D'abord, j'aurais répondu la première réponse un peu technique faite par mes collègues britanniques. Ils se sont associés d'ailleurs, il y avait des universitaires, et puis en Angleterre, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle l'opinion du Trésor, et donc l'équivalent du directeur du Trésor, le Treasury, a une tradition de très haut niveau sur le plan intellectuel, et donc il a été associé à l'opération, ce qui en France n'est pas forcément le cas. Le directeur du Trésor est toujours quelqu'un de compétent, mais c'est pas forcément un économiste reconnu sur le plan académique. Donc ils se sont associés à plusieurs, ils ont commencé par dire qu'il y avait un déséquilibre de balance des paiements, ce déséquilibre de balance des paiements courants qui avait favorisé les États-Unis et qui était à l'origine de cette mauvaise répartition et de l'épargne et cette tension sur la finance. La deuxième chose que j'aurais dite à la reine d'Angleterre, c'est que effectivement, il y a des choses qu'on peut pas voir venir, mais ça n'en remet pas en cause le caractère scientifique de l'économie. Je pense souvent, comme exemple, la géologie. Je pense que tous les géologues qui se respectent savent que la Californie est condamnée. Maintenant, ils ne sont pas capables de dire si c'est dans 48 heures, 48 ans ou 48 millions d'années. C'est-à-dire que il y a des mécanismes qui sont des mécanismes lourds, et dans ces sciences, y compris les sciences dans lesquelles il n'y a aucune volonté humaine, comme dans la géologie, il y a des mécanismes qui sont difficiles à cerner. Et le troisième élément, je lui aurais répondu que effectivement, le véritable attente des populations, c'est ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ce que disait notre Britannique, c'était Tony Blair, qui avait dit il y a les politiques économiques qui réussissent et les politiques économiques qui échouent, et il n'y a pas les politiques économiques de gauche et les politiques économiques de droite. Et donc, l'échec se mesure par rapport aux objectifs. Et je pense qu'une société doit être en capacité de demander des choses précises aux économistes. On ne peut pas à la fois dire, il faut qu'il y ait plus de pouvoir d'achat, moins de chômage, plus de gens heureux, qu'on augmente l'espérance de vie. Il y a des choix à faire, à un moment donné. Et donc, là aussi, les économistes ne peuvent répondre qu'à des questions qui seraient formulées par la société. Et quand la société dit, ma priorité, c'est l'emploi, qu'on lui dit, écoutez, voilà ce qu'il faut faire pour obtenir le plein emploi, et que la réponse est, non, mais on ne le fera pas, de toute façon, contre le chômage, on a tout essayé, c'est que la société ne se définit pas réellement comme ayant comme objectif le plein emploi.
Une question de Benoît Bouscarel.
Jean-Marc Daniel, la reine d'Angleterre, là, elle est confrontée au Brexit, avec là aussi de longs débats, d'immenses débats entre économistes sur les conséquences du Brexit. Est-ce qu'elles seront plutôt positives, plutôt négatives pour l'économie du Royaume-Uni? Vous voyez les choses se passer un peu de cette même façon, là, un débat sans fin, et sans qu'on ait vraiment une vérité qui émerge?
Alors, je crois qu'il va se passer effectivement trois choses sur le Brexit. D'abord, on va lui attribuer beaucoup de choses au Brexit qui seront totalement déconnectées par rapport à lui. C'est-à-dire que, au moment de la crise de 2008 aussi, on a associé brutalement Lehman Brothers à la crise de l'automobile américaine, alors que c'était deux mécanismes qui étaient parallèles, dans lesquels il pouvait y avoir des fondements communs, mais qui n'étaient pas directement liés. Alors, de nouveau sur le Brexit, on annonce, à cause du Brexit, il va se passer ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Alors, et ça ne se passe pas vraiment, parce que la surinterprétation que l'on donne à l'événement fait qu'on a une faible lisibilité du Brexit. La deuxième conséquence, je crois, c'est qu'on le voit bien, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Et donc, il y a des gens qui espèrent en tirer bénéfice et d'autres qui, au contraire, sont persuadés que ça va leur nuire. Et je pense que ce que l'économiste doit être capable de dire, c'est en faisant ça, vous favorisez un tel. En faisant ça, vous pénaliser un tel. Mais c'est à vous de faire le choix. Il y a un économiste du 19e siècle qui était plutôt progressiste, qui était John Stuart Mill, qui justement sur le chômage disait, écoutez, il n'y a pas 36 solutions, si vous voulez véritablement faire baisser le chômage, il faut faire baisser les salaires. Maintenant, si vous faites baisser les salaires, vous allez pénaliser les gens qui travaillent déjà, les gens qui ont fait des efforts pour rentrer sur le marché du travail. Et donc, c'est à vous sur le plan politique de dire si vous voulez pénaliser les gens qui travaillent déjà en leur disant bon, il faut faire un effort de solidarité, ou si vous considérez qu'il faut sortir les gens qui sont dans la situation actuelle d'affaiblissement par le chômage de leur situation de chômage. Et le troisième élément, il y a une chose qui est objective dans ce qui va se passer sur le Brexit, c'est que la livre va baisser. Elle a déjà commencé à baisser, elle n'est plus associée sous quelque forme que ce soit au projet européen et au projet de l'euro. Donc la livre va baisser et la livre va s'amoindrir en tant que devise.
Ça a été le cas ce matin, de manière assez sensible.
Oui. Or,
ça a été le cas surtout juste après le vote du référendum. On a vu les bourses quand même
très
en panique.
Elle a baissé de plus de 10% après le vote. Mais quand on se souvient de ce qui était passé en 1992 au moment de la sortie de la livre sterling du SME, la dévaluation avait été de 30%. Et donc, ça avait eu quoi comme conséquence? Ça avait eu une poussée d'inflation au Royaume-Uni, Mais de notre côté, cette poussée d'inflation s'était traduite par, comme la politique monétaire avait été allégée, par une baisse du chômage. Et donc, là aussi, il y avait eu dans le Brexit l'avantage et les inconvénients de la dévaluation, dans le Brexit de l'époque, et je pense que le Brexit actuel va être une dévaluation pour le Royaume-Uni avec les avantages et les inconvénients d'une dévaluation.
Mais que valent les prévisions, du coup, en la matière ?
Alors, les prévisions, je pense qu'elles sont éminemment fragiles, et d'ailleurs, j'en reviens à l'exemple du géologue, c'est-à-dire, ou bien vous pouvez faire des prévisions à très court terme, et ça, elles sont rarement infirmées, sauf événements exceptionnels. Vous pouvez faire des prévisions à très long terme, parce que des tendances, on les voit apparaître dans la société, mais les prévisions à moyen terme, elles sont en général extrêmement fragiles. On a parlé.
Mais ça veut dire que tous les scénarios, pardon, économiques, pessimistes ou optimistes, qui ont pu être notamment développés juste après cette surprise, on s'appuie sur l'exemple du Brexit, après le référendum, sont éminemment politiques avant
tout. Ils sont à la fois politiques et puis ils sont régulateurs. C'est ce que racontait Irving Fisher, qui était le grand économiste des années 30, et on lui dit vous n'avez pas annoncé la crise de 29, vous n'avez rien compris. Donc on lui a fait à l'époque une réflexion digne de ce que fait comme réflexion la reine d'Angleterre. Il avait répondu, imaginez que j'ai dit il va y avoir une crise, juste que je représente en tant qu'autorité sur le plan économique, tout le monde se serait dit il faut se prémunir contre la crise, et ça aurait eu un effet amplificateur. Tout le monde se serait précipité vers les banques pour retirer son argent, et le bank run, en l'annonçant, je l'aurais provoqué. Le rôle des scénarios pour les économistes, à mon avis, c'est plus de garde-fou et d'incitation à être imaginatif que de véritables prévisions de ce qui va se passer. Vous savez, c'est le fondateur de la prospective, Gaston Berger, qui disait l'art du prospectiviste, c'est d'annoncer systématiquement ce qui n'arrivera jamais. Et donc c'est ça, faire de la bonne prospective, c'est d'annoncer ce qui n'arrivera pas, parce que les gens s'adapteront à cette menace.
Alors Jean-Marc Daniel, dans Trois controverses de la pensée économique, travaille Dead Capital, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Pour en revenir à ce clivage qu'on évoquait, vous attaquez quand même vous assez fortement et à votre tour aux détracteurs de la mathématisation qui maîtrisent peu les équations et comprennent peu les résultats selon vous, et vous prenez assez clairement parti, vous êtes plus qu'un arbitre, pour la mathématisation de l'économie, tout en dénonçant ses excès. Là encore, je vous cite, sa mathématisation croissante lui a certes donné des moyens d'une plus grande scientificité, mais l'a aussi fragilisé en l'éloignant du quotidien. Quand vous dites du quotidien, donc du réel, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure en nous disant que quelque part la pensée économique doit se confronter aux politiques économiques.
Oui, je pense que la pensée économique doit se faire en sorte de répondre aux exigences et aux besoins de la société. Un bon modèle, ce n'est pas forcément un beau modèle. C'est-à-dire, un beau modèle, c'est un modèle avec des équations qui s'enchaînent bien, avec des résultats qui sont assez clairs, quelquefois un peu paradoxaux, mais ça correspond pas forcément aux attentes de la population. Et je pense que la mathématisation, en fait, elle a joué un triple rôle quand on regarde dans l'histoire de la pensée économique. Dans un premier temps, effectivement, elle a été utilisée pour clarifier la pensée. C'est vrai que une équation, quelquefois, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe qu'un texte littéraire. Le deuxième élément, c'est qu'il y a toute une partie de la mathématisation, qui est la statistique et l'économétrie, qui se substitue à l'expérience. La différence qu'il y a entre l'économiste et le physicien, c'est que le physicien peut faire des expériences, l'économiste ne peut pas. Et donc, Pierre Cahuc et André Zilberberg, ils affirment que ça transforme l'économie en une véritable physique. Sauf que la statistique n'a pas quand même la force déterministe de ce que peut avoir une expérience de physicien, mais ça permet quand même d'y voir clair. Et puis alors, il faut bien dire ce qui est. Maintenant, la mathématisation, c'est utilisé par un certain nombre pour s'éloigner des gens qui émettent des opinions. C'est-à-dire que en physique, vous avez assez peu de gens qui se mêlent sur le fait de savoir si la théorie du gaz parfait est utile ou pas et correspond à la réalité, si l'air est un gaz parfait. En revanche, sur le fait de savoir s'il faut que la Grèce sorte ou non de l'Union européenne et de la zone euro pour s'en sortir, vous avez une foultitude de gens qui ont une opinion, et non seulement ils ont une opinion, mais si vous ne la partagez pas, ils vont vous dire mais vous n'appartenez pas au même clan intellectuel que moi, c'est parce que vous n'appartenez pas au même bloc que nous n'avons pas la même opinion, mais nos opinions sont tout à fait acceptables et tout à fait estimables. Et donc un certain nombre d'économistes ont utilisé les mathématiques pour dire non, votre opinion a moins de valeur que la mienne parce que moi je peux l'exprimer en équation. Et je crois que ce qui est important, c'est pas de l'exprimer en équation. Je crois qu'être vraiment économiste, c'est deux choses. Être reconnu par ses pairs. Il n'y a pas 36 solutions. On est économiste, malgré tout, si d'autres économistes vous ont adoubé. Alors, les physiciens aussi, on est physicien si à un moment donné, vous réussissez à des concours ou à des examens dont les examinateurs sont des physiciens. Donc, on est adoubé. Et deuxièmement, on est économiste si, je maintiens et j'insiste, on répond aux attentes de la population. On répond à la reine d'Angleterre. Le grand économiste à venir, c'est celui qui ira voir sa gracieuse majesté et qui lui dira de façon simple, voilà quelle était la réponse.
France Culture, il est 13h10.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Invité de cette deuxième partie de la Grande Table, économiste Jean-Marc Daniel, spécialiste de l'histoire de la pensée économique, qui nous revient en cette rentrée avec trois controverses de la pensée économique, travail, dette, capital. Jean-Marc Daniel, dans votre essai, vous opérez effectivement un retour aux sources de ces trois controverses toujours actuelles. Et ce faisant, vous nous faites une petite leçon d'économie politique appliquée. Vous retracez d'abord les grandes étapes de l'histoire de la pensée économique, des physiocrates du 18e au keynésianisme du 20e siècle. Est-ce que ces courants sont toujours structurants aujourd'hui du débat?
Donc normalement, chaque courant s'est substitué à l'autre dans des conditions plus ou moins violentes et plus ou moins brutales. C'est-à-dire que une des caractéristiques de Keynes, c'est qu'il a été extrêmement virulent et extrêmement violent à l'égard de ses prédécesseurs, alors que dans les courants précédents, à chaque fois qu'on reformulait l'économie, on s'appuyait sur la formulation antérieure, même si c'était artificiel, pour dire justement l'économie est une science, donc elle progresse, elle ne s'auto-détruit pas régulièrement. Mais le courant le courant dominant maintenant reste quand même le courant qui est l'héritier de Keynes, qui est un courant qui continue à penser que d'une certaine façon, l'État est le maître ultime, même si c'est pas l'État à la soviétique, hein, d'autant plus que Keynes était férocement anticommuniste. Mais l'État finalement a, sinon la solution, du moins le devoir de chercher la solution pour répondre aux problèmes de la société, et notamment aux problèmes de croissance et de chômage. Et donc, il y a tout ce débat d'ailleurs, qui est toujours au centre de nos réflexions sur l'efficacité de la politique économique. Est-ce que la politique budgétaire continue à avoir un impact positif sur la croissance? Est-ce que la politique monétaire, est-ce que la Banque centrale est en état de répondre, là aussi, aux besoins de croissance? Or, ce courant, et c'est pour ça que je parle de controverse, ce courant qui est né, donc l'une de mes trois controverses, est justement autour de la pensée de Keynes, de la politique du New Deal et tout ça. Ce courant-là, pour moi, arrive un peu à son terme, parce qu'au moment où il y a eu ce grand débat dans les années 30 entre politique monétaire et politique budgétaire, on s'est posé la question de savoir quel était le bon outil, et je pense que maintenant, on s'aperçoit qu'aucun des deux ne marche véritablement. Et donc, le défi, c'est de dépasser cette espèce de clivage politique monétaire, politique budgétaire, jeu autour de la politique économique, pour se demander comment ressusciter dans la population l'envie d'investir, comment recréer des entrepreneurs, comment faire en sorte que, de nouveau, il y ait des gens qui aient envie de créer quelque chose. Parce que la croissance économique, c'est des gens qui créent.
Et pourtant, c'est des leviers qu'on ne cesse d'activer aujourd'hui encore, au niveau national, mais aussi au niveau européen.
Oui, ce sont des leviers qu'on ne cesse d'activer, ce sont des leviers dont on a la nostalgie. C'est-à-dire que vous regardez là, le dernier G20, effectivement, les experts qui étaient associés à l'opération, qui étaient les experts du FMI et de l'OCDE, ont dit, dans la situation dans laquelle on est, dans le désarroi, le mot n'a pas été prononcé, mais ça traduit un certain désarroi, s'appuyer encore sur l'idée qu'il va falloir relancer l'activité économique par le déficit budgétaire et par l'investissement public, ça peut être le dernier recours qu'on a pour l'instant. Et est-ce que je dis bien dans ce chapitre sur Keynes, sur le New Deal, sur la controverse qu'il y avait eu entre Keynes et le secrétaire au trésor de Roosevelt qui était Morgenthau, je dis bien, c'est que il y avait une réponse immédiate à une angoisse. C'est-à-dire que Keynes disait bien, méfiez-vous, si vous ne bougez pas, c'est le sens de la formule, à long terme, nous serons tous morts. C'est-à-dire, à long terme, nous serons tous morts. Et puis, si on se trompe sur le court terme, on ne connaîtra pas le long terme. C'est-à-dire que si c'est les communistes et les nazis qui arrivent au pouvoir dans nos vieilles démocraties, le long terme sera monstrueux. Donc, gérons le problème du court terme. Or, face à ce problème du court terme, jusqu'à présent, les outils qu'on est en train de mettre en branle ne marchent pas. Et donc, je crois qu'il y a une vraie urgence à définir autre chose simplement qu'une ressuscée du keynésianisme ou une ressuscée des politiques monétaires, même si encore une fois dans le désarroi, ben finalement on dit écoutez, il y a ça, ça marche pas, mais au moins il y a ça, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui marche vraiment, mais pour l'instant essayons encore une dernière fois ces outils qui sont épuisés.
Avant d'en venir à la question de la dette que vous développez longuement, effectivement aussi autour de la figure de Keynes et surtout de la rupture qu'il a pu incarner avec son appel à un second New Deal, vous nous avez pas encore parlé de Ricardo. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche quand même, non?
Mais Ricardo, il correspondait, donc vous me dites si c'est toujours les keynésiens, Ricardo, il correspondait effectivement à une certaine époque. Ce que je trouve intéressant dans Ricardo, dont je me dis défini comme étant un disciple, même si, comme il n'est pas vivant, peut-être que s'il retournait parmi nous, nous, il dirait, mais je vous interdis de penser.
Il vous renierait, ouais.
vous n'avez rien compris. Mais ce qui avait été important chez Ricardo, justement, je crois qu'il est... Pourquoi je tiens à Ricardo et dont je parle dans la première controverse, qui est un peu forcément au centre de ma première controverse, c'est d'abord parce qu'il a essayé, là aussi, de raisonner par rapport aux attentes de la population. Et il a identifié dans la population des gens dont il pense qu'ils sont les porteurs de l'avenir. S'il défend les capitalistes, c'est, dit-il, parce que les capitalistes incarnent parce qu'ils investissent, parce qu'ils cherchent à être de plus en plus efficaces, parce que les machines qu'ils mettent en place sont de plus en plus efficaces, ils incarnent la préparation de la société de demain. Et il dit bien, les ouvriers, les travailleurs qui sont dans l'immédiateté, ils ont leur rôle, il faut pas les négliger, mais ils ne préparent pas l'avenir, ils subissent. Quant aux rentiers, aux gens qui sont issus du passé, Malthus lui dit à un moment donné, mais ils ont un passé glorieux, ils viennent de gagner contre Napoléon, vous n'allez pas leur enlever une partie de leurs revenus, une partie de leurs ressources, il faut les respecter, ils viennent de nous débarrasser. On en revient à Keynes et le nazisme et le communisme. Ricardo a en face de lui quelqu'un qui lui dit, ils ont vaincu Robespierre et Napoléon. Et c'est pas négligeable d'avoir débarrassé l'humanité de ces deux dingues. Et la réponse de Ricardo, c'est dire, moi je fais un choix, quel que soit le caractère tout à fait estimable de leur action passée, je prépare l'avenir. Et ce que je trouve intéressant dans la préparation de l'avenir, c'est que on a toujours dans ces cas-là en face de soi des gens qui sont inquiets. C'est-à-dire que préparer l'avenir, ça vous met en porte-à-faux avec un certain nombre de gens qui n'arrêtent pas de dire que cet avenir va être noir, et la forme la plus noire de l'avenir sur le plan économique,
c'est... Et notamment quand on annonce la fin du travail.
Voilà, ou... c'est la fin du travail. C'est on va projeter tout un tas de gens dans le chômage, dans la misère, dans l'oisiveté forcée, dans une espèce d'abaissement. Et donc je dis, Ricardo a eu le mérite de dire non. C'est pas ça qui va se passer. Et je pense que, effectivement, c'est pas ça qui va se passer.
Et en même temps, c'est un réflexe naturel quand on s'embourbe, effectivement, dans des taux de chômage qui n'en finissent plus, et qu'on a le sentiment que personne aujourd'hui n'a la solution pour pouvoir revenir à une situation, peut-être pas de plein emploi, mais au moins de réduction de ces courbes du chômage.
Oui, face à mes arguments, d'ailleurs, plusieurs personnes ont déjà dit, c'est pas parce qu'à chaque fois, chaque révolution technologique a fini par être sublimée par une repoussée de l'emploi, une renaissance de l'emploi, que cette fois-ci, on n'est pas au bout du processus. Ce qui me rassure... Alors, effectivement, je ne suis pas porteur de... Je ne sais pas lire dans le marc de café, je ne sais pas ce qui se passera dans 10 ou 15 ans. Mais ce que je constate quand même, c'est que cette annonce angoissée de la fin du travail a toujours été affirmée, parce qu'il y a une forme d'imagination chez l'homme, c'est-à-dire un besoin de création chez l'homme, qui fait qu'à chaque fois, il se remet en avant. La deuxième chose que je remarque dans ce livre, c'est que il y a une option qui a été assez souvent explorée, notamment depuis la fin du 19e siècle, qui est de créer des emplois que je dis de bureaucratie. C'est-à-dire des emplois d'administration qui sont quelquefois des emplois dont l'utilité sociale est pas évidente, dont l'utilité c'est l'État qui va définir quelle est leur utilité, mais ils ne sont pas sur le marché et tout ça. Et ce que je pense, c'est que ces emplois bureaucratiques eux-mêmes maintenant vont être grignotés par le marché. C'est-à-dire que la grande mutation du monde dans lequel nous vivons, c'est que l'emploi bureaucratique va basculer vers l'emploi de marché.
Sauf que, comme nous le rappelait encore récemment et depuis toujours presque la sociologue Dominique Métal, le salariat concerne encore aujourd'hui 90% de la population. Donc comment réussir à imaginer, et ça c'est cet aspect disruptif que vous analysez aussi, celui de l'ubérisation de cette société, comment réussir à se projeter dans ce que serait la société de demain, une société où les emplois tels que vous les décrivez seraient de plus en plus des emplois d'auto-entrepreneurs et moins en moins des emplois bureaucratiques comme vous l'évoquiez. C'est très compliqué sur les bases actuelles de pouvoir imaginer comment cette transition va pouvoir se faire et sur quelles bases.
Oui, mais alors justement la réflexion de Dominique Béda, mais c'est pas insultant dans la façon dont je le présente.
C'est idéologique pour vous ?
C'est ludite. C'est pas idéologique, c'est ludite. Les ludites, c'est ces gens qui cassaient les machines parce qu'ils pensaient que les machines allaient prendre leur place. C'est cette idée, rassurez-vous, alors c'est une forme de ludisme intelligent en disant, rassurez-vous, la machine ne prendra pas votre place, le travail il ne va pas changer. La société est relativement inerte par rapport à des évolutions technologiques, mais le fondement social de la société ne va pas se réorganiser. Or, je pense que ça, c'est faux. Il y a deux éléments qui jouent en faveur de mes arguments. Le premier, c'est que quand même, une entreprise sur deux qui se crée à l'heure actuelle est un auto-entrepreneur. C'est-à-dire que on se glorifie de l'esprit entrepreneurial de notre population en disant il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées. En réalité, ce sont des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que ce sont des salariés déguisés. Ce sont des gens qui fournissent un travail pour une autre personne où leur relation n'est plus une relation de subordination comme dans le salariat, mais une relation commerciale organisée autour de l'auto-entrepreneuriat. Et quand vous regardez l'évolution du nombre de non-salariés, effectivement, mais pourquoi est-ce que les salariés gardent encore cette part? Parce qu'il y a non-salariat qui disparaît, qui est le petit commerce et surtout l'agriculture. Il y a encore des suppressions d'emplois, il y a encore des suppressions d'exploitation agricole, et donc cette partie-là continue à diminuer. Depuis 2007-2008, la part des non-salariés augmente malgré la poursuite de la destruction d'emplois agricoles. Et donc je pense que la tendance maintenant est en train de se mettre en place vers une société ubérisée.
Alors ce néoludisme, cet esprit, puisqu'on parle de la manière dont ces controverses ont pu passer les années, ce qu'elles nous disent aussi d'aujourd'hui, reste aujourd'hui pour vous incarné sur cette question du travail par l'État et les syndicats notamment. Les controverses, et notamment celles sur le travail, ont beaucoup évolué avec les années. Si vous opérez ce retour aux sources au début du 19e, avec effectivement l'affaire des ludites en Angleterre, en quoi est-ce qu'on peut comprendre les termes du débat actuel en se référant ailleurs?
Si je reviens à Ricardo, ce qui est très intéressant, parce que Ricardo, effectivement, il dit les capitalistes, c'est l'avenir, et puis il découvre Sismondi, et Sismondi lui dit quand même, les gens qui cassent les machines souffrent. Il y a une souffrance, et puis il y a Lord Byron, qui est un de mes héros du livre. Je suis assez content d'avoir cité un discours de Lord Byron à la Chambre des Lords, où il défend les ludites. Et donc, Lord Byron, c'est pas n'importe qui. Quand il s'exprime, Ricardo regarde ce que dit Byron, et il constate effectivement qu'il y a une différence fondamentale entre les ludites, les gens du présent qui cassent les machines, et les rentiers, c'est-à-dire les gens qui tirent d'une situation de monopole, qui tirent d'une situation préservée par l'État, leurs revenus. Ce que je trouve intéressant dans la situation actuelle, donc Ricardo dit les rentiers, il faut être sans pitié. C'est pas parce que c'est les propriétaires terriens, c'est la noblesse, c'est pas parce qu'ils ont vaincu Robespierre et Napoléon qu'ils ont des droits sur nous. Il faut être sans pitié avec eux. En revanche, les ludites, il faut accompagner effectivement leur souffrance et il faut organiser des transitions vers cette société mécanisée à laquelle nous aspirons. Ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, c'est que le rentier, il doit sa situation à un monopole d'État. Au fait que l'État, à un moment donné, c'est l'histoire des taxis. Le rentier, qui est dans l'actualité la plus immédiate face à Uber, c'est le taxi. Il le doit au fait que l'État a fixé un nombre de gens qui peuvent être chauffeurs de taxi. Et donc ça, c'est contourné par le marché noir, l'ubérisation. Et le ludite, c'est quelqu'un qui va casser des machines. Ce que je trouve intéressant, c'est que une partie des rentiers et des ludites sont en train de se confondre. Moi qui suis enseignant, je suis dans un monde qui est à la fois rentier, parce que ce qui n'est pas une critique sur mes collègues et moi-même, c'est un monde qui a un statut, donc qui est protégé, qui accède à cet emploi par l'intermédiaire d'un concours, donc dans lequel il y a une forme de numerus clausus, et en face duquel il y a un mécanisme ludique, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont en train de nous menacer. C'est-à-dire que, concrètement, quand je donne un cours, je dis à mes étudiants, vous avez la possibilité de suivre le même cours fait par un prix Nobel d'économie en allant sur Internet. Et donc, je me bats contre lui. Avant, vous étiez là par obligation, maintenant vous êtes là par adhésion, et je vous en remercie. Parce qu'il y a mon concurrent qui est en train de se mettre en place.
Vous l'écrivez, donc, l'enseignant s'apprête, selon un processus désormais inexorable, à devenir physiquement absent.
Absent, absolument. Et donc lui, il est à la fois potentiellement le ludite et le rentier. Et donc ce personnage, qui est un personnage que Ricardo n'avait pas pu identifier puisqu'il y avait une césure entre les deux de son temps.
Le temps passe, Jean-Marc Daniel. Un mot quand même de la dette, accentuer ou réduire le déficit. C'est un vieux serpent de mer du débat politique. Rappelons-nous.
Aujourd'hui, je le répète, la France a un problème qui n'est pas un problème de nature économique. Notre économie se porte bien. Elle est dynamique, elle est vigoureuse, elle exporte. Elle a un problème financier, elle a des déficits. Et donc la priorité, c'est la réduction des déficits.
Une dette française qui augmente à une vitesse vertigineuse. Rien que sur le premier trimestre de 2015, elle s'est alourdie de 51 milliards 600 millions d'euros.
On voit que les prévisions publics sont souvent fausses. Les études d'impact, d'ailleurs, dans les lois, sont souvent fausses. Vous augmentez telle part de fiscalité, vous espérez recueillir 10, en fait, vous en recueillez 6, et tout ça change tout.
Les chiffres de la dette, ils ne sont pas établis par le gouvernement, ils sont établis par l'INSEE, et ils sont établis par Eurostat. Il n'y a ni miracle, ni magie.
Nous ne sommes objectivement pas en faillite. mais notre dette augmente chaque année du fait qu'on est incapable d'équilibrer les dépenses et les recettes. Et moi, ma conviction, c'est que nous serons un jour ou l'autre, de façon inexorable, rattrapés par la dette. Ce problème se posera. Il se posera peut-être pas tout de suite, mais il se posera inéluctablement.
Jean-Marc Daniel, voilà cette question de la dette. Alors là encore, vous opérez un retour aux sources, vous l'évoquiez, vous revenez à ce second New Deal de Keynes demandé auprès de Roosevelt. Mais on se rend compte aussi, à vous lire, que les partisans de l'équilibre n'ont pas toujours été ce qu'on croit, et pas toujours ceux qui se réclament en tout cas aujourd'hui comme tels. Ce qu'on pensait se réduire à un clivage gauche-droite quelque part, ça n'a pas toujours été si simple.
Non, c'est pas aussi évident que ça. Et là, pour en revenir à Ricardo, donc Ricardo montre bien, on montre bien que assez souvent on dit que la dette c'est un problème d'arbitrage entre deux générations. Il y a la génération d'aujourd'hui qui s'endette et la génération de demain qui paiera. Et Ricardo dit bien, de façon tout à fait évidente, quand on paie à quelqu'un. Et donc ceux qui paieront dans la génération d'après, ils paieront à quelqu'un et ce quelqu'un sera aussi dans leur génération.
C'est vraiment la question de l'héritage.
Oui,
hein,
c'est
qui
l'héritage.
Revient encore
et donc
beaucoup
effectivement,
aujourd'hui.
Ça n'a de sens. Et c'est là aussi, c'est tout le débat qui va apparaître avec Keynes et tout ça. C'est on laisse de la dette, on laisse un déséquilibre en fait dans la génération d'après, parce qu'il y a des gens qui vont se trouver disposés d'un revenu du fait du remboursement, des versements d'intérêts de leurs concitoyens. Et donc, est-ce que ceux qui vont être pénalisés, est-ce qu'au moins ils ont quelque chose qui peut justifier que eux soient pénalisés? Alors Ricardo dit non. Ricardo dit, écoutez, en général, ceux qui sont pénalisés, c'est les pauvres, et ceux qui bénéficient, ce sont les riches. Et donc, c'est pas à l'État d'organiser cette espèce de transfert à l'inverse de ce qu'on attend de l'État. Keynes, lui, il dit, ça dépend ce qu'on laisse. Et donc, c'est toute l'histoire du multiplicateur. Donc, c'est le centre, pour moi, de la pensée keynésienne. On a beaucoup ergoté sur qu'est-ce qu'il avait dit. Puis, il a dit tout et son contraire. Enfin, c'est plus subtil que ça. Mais, ouais. Et puis, alors, il y a le Keynes des années 20 qui n'est pas le Keynes des années 40. Mais le centre de la pensée keynésienne, ce qui fait la quintessence et l'intelligence du personnage, c'est le multiplicateur. C'est cette idée que l'État, par les décisions qu'il prend, à un moment donné, va amorcer la pompe et va être capable de régénérer de la croissance économique. Et donc, je dis, la seule justification qu'il y aurait depuis 40 ans à ce que nous ayons accumulé de la dette, c'est qu'il y ait eu d'abord une dynamisation de la croissance, une véritable effet de multiplication, et que ce qu'on laisse sous forme d'équipement public soit conforme aux attentes et aux besoins de la population. Or, je pense que ce qui condamne pour l'instant le keynésianisme, c'est que les multiplicateurs ne sont pas au rendez-vous. Toute cette dette dont on a parlé, donc on a commencé avec Chirac en octobre 95, qui disait voilà, bon, il y a un problème financier, bon ça. Toute cette dette, elle est vécue honteusement. Tous ces gens n'arrêtent pas de dire, ils pourraient dire, écoutez, la dette, on l'assume parce que ça nous permet effectivement de faire tant de points de croissance. Non, elle est vécue honteusement maintenant, et elle est vécue comme une sorte de nécessité honteuse parce que on n'arrive pas à trouver les investissements publics qui
mais
seraient
plus,
porteurs
plus
d'avenir.
Plus tant que ça, et on a l'impression que justement, pour la première fois, sur ces trois controverses que vous avez citées, un consensus un peu progressif est en train de se faire. Que c'est peut-être la fin de la controverse sur la dette en France. Cette règle d'or de l'équilibre, celle d'un déficit public sous la barre des 3%. Aujourd'hui, à gauche comme à droite, on a un peu fini les leçons d'orthodoxie budgétaire et ces grandes leçons de gestion saine des finances publiques. On a l'impression que chacun s'accorde à dire que ça va durer encore quelques temps comme ça maintenant.
Oui. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même que, grosso modo, effectivement, on en revient à cette idée du multiplicateur. Il y a des périodes, il y a des types de situations économiques. Et là aussi, pour en revenir à Pierre Cahuc et André Zilberberg, dont nous parlions tout à l'heure, ils disaient qu'il y a des périodes où, effectivement, le déficit est véritablement un moyen de booster la croissance. En revanche, il y a des périodes où, au contraire, on doit reconstituer les marges de manœuvre de la politique budgétaire, ce qu'avait fait l'administration Clinton à la fin des années 90, par exemple, ou ce qu'est en train de faire l'Allemagne en ce moment. Et donc, je pense que l'orthodoxie budgétaire, l'équilibre du budget tous les ans à l'euro, c'est absurde. En revanche, une séquence de 40 ans d'accumulation de dette publique et de déficit budgétaire comme nous venons de connaître montre que ça ne peut pas être la panacée, qu'il faut interpréter différemment la nature de la dette.
Un grand merci Jean-Marc Daniel. On aura peu parlé du capital, troisième controverse que vous développez dans votre ouvrage, trois controverses de la pensée économique qui vient de paraître chez Odile Jacob. Mais pour ça, on vous réinvitera avec Thomas Piketty, puisque vous créez la controverse ou vous la ressuscitez dans votre ouvrage même. Et ça pourrait vraiment donner lieu à plus que très intéressant débat entre vous deux sur ce sujet. Merci mille fois à vous, à la préparation ce midi, Claire Maillot, Clémence Marie, Antoine Tricot, Julien Rosa, Inès Magriff, aux manettes Luc-Jean Reynaud avec Jean-Guilain Meige, sur le fil des réseaux sociaux Farah Kéram. La Grande Table se tweet, se like et se podcast sur franceculture.fr où vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires. Merci.